Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Entre la carotte et le bâton, c'est le bâton que le gouvernement a choisi pour faire respecter à l'avenir l'égalité salariale dans les entreprises. À poste équivalent, l'écart de rémunération entre un homme et une femme est aujourd'hui en moyenne de 9%. Pour le résorber d'ici 3 ans, l'exécutif promet un renforcement des contrôles et des sanctions qui pourront atteindre 1% de la masse salariale. Mais il ne suffit pas d'agir sur les salaires pour combler les inégalités entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel. Encore faut-il que l'accès aux postes, en particulier ceux à responsabilité, se fasse de manière égale. C'est d'ailleurs ce que prévoit la Constitution qui, dans son article 1er, affirme que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. Mais dans les faits, c'est plus compliqué. Alors si en 2011, une loi a permis de dépasser le seuil des 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, on est encore loin de la parité dans les comités exécutifs. Par ailleurs, cette question ne se limite pas au poste d'encadrement. Comme l'a rappelé ce jeudi le député François Ruffin à la tribune de l'Assemblée, les inégalités hommes-femmes touchent d'abord les emplois les plus précaires. Alors l'égalité s'impose-t-elle par la loi ? C'est autour de cette question que nous allons discuter ce soir en compagnie de 4 invités. Mercedes Serra, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, présidente exécutive d'Avas Worldwide, fondatrice de BETC, qui est une agence de publicité. Vous êtes une des membres fondatrices du Women's Forum for the Economy and Society, pour l'économie et la société, pour discuter avec vous. Marie-Pierre Ixin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche de l'Essonne. À l'Assemblée, vous présidez la délégation aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Troisième invitée, elle est au téléphone, c'est Virginie Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous dirigez le laboratoire d'idées think tank différents. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions d'égalité hommes-femmes. Vous en avez également parlé dans des ouvrages. Pas seulement des essais, mais également un roman, Garde-corps, c'était chez Le Mieux éditeur en 2016. Et puis notre quatrième invité, lui aussi, est au téléphone, c'est Pierre-Yves Gomez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur de stratégie à l'école de management de Lyon. On vous doit, c'était en 2016 chez Desclés de Brouwer, l'éditeur, Intelligence du travail. Alors je voudrais qu'on commence la discussion en évoquant la question des inégalités salariales à travail égal. La moyenne, c'est donc aujourd'hui de 9%. Alors j'ai fait un petit calcul en prenant par exemple une femme qui serait payée 2 000 euros net par mois. Ça voudrait dire que l'homme, lui, si on garde cette moyenne, touche serait 2180 euros. Ça fait 2160 euros de différence sur une année. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît très important aux uns et aux autres? Et comment est-ce qu'on peut expliquer un tel écart? Mercedes Serra.
Oui, ça me paraît important. De toute façon, moi, je crois que l'égalité est une chance et un bien pour tous. Donc, ça me paraît important. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Il n'y a pas que l'attitude des hommes. Et le fait qu'on paye un tout petit peu moins les filles intuitivement que les hommes, il y a la capacité de négociation des femmes qui est moindre que celle des hommes parce qu'on les a moins habituées à parler d'argent, à demander de l'argent, qu'elles acceptent, moi je le vois, hein, chaque fois que je donne des augmentations, les garçons réclament beaucoup plus que les filles. Ils ont une considération d'eux-mêmes plus grande que les femmes. Ça, c'est très important parce que la confiance en soi est une des choses qui vous permet la négociation.
Et cet écart, il se fait dès l'embauche parce qu'on sait bien que les conditions dans lesquelles on va être embauché, ça va déterminer aussi toute une carrière derrière.
C'est très étrange. Moi, je ne pensais pas. Je pensais qu'à la sortie des mêmes écoles... En fait, il y a une étude très précise qui a regardé à la sortie des grandes écoles ce qui se faisait sur les filles et les garçons. Est-ce qu'il y avait un écart ou pas? Honnêtement, on croyait tous qu'il n'y avait pas d'écart. Ils avaient les mêmes diplômes. Il y a un écart dès la sortie des écoles.
Marie-Pierre Hessin.
Oui, bonsoir. Donc effectivement, il y a 9% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et il y a également 27% d'inégalité de revenus. Je crois que c'est important d'en parler. Parce qu'effectivement, il y a les salaires, mais il y a également l'ensemble des revenus des femmes. Et on parle effectivement d'accès à l'emploi, mais il y a également la manière dont les femmes se forment, qui leur permettent de garantir également des emplois qui seront mieux rémunérés.
Voilà, 27%, c'est les différences globales hein, entre les
rémunérations
des hommes et des femmes. Ouais, et de revenus. Ce qui donne donne aussi une idée de, comment dire, de la capacité plus importante pour les hommes aujourd'hui à occuper des postes mieux rémunérés.
Hein. À occuper des postes mieux rémunérés, mais également à aller vers des secteurs qui seraient mieux rémunérés.
Mais sur cette question, en tout cas, des postes équivalents, de ces inégalités salariales, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît suffisamment important pour devoir mobiliser, par exemple, une action gouvernementale, Marie-Pierre Rixain, en essayant de faire en sorte que ça soit résorbé le plus possible?
Je crois qu'il faut rappeler d'abord l'histoire. L'histoire, c'est que depuis 1972, l'égalité salariale est garantie par le Code du travail. Il y a eu la loi Roudy, 1983, qui a eu des lois, notamment l'année de 2006, qui garantissent effectivement les égalités de revenus. On peut constater qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc la loi est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, nous sommes arrivés à un deuxième stade, qui est celui de l'évaluation des politiques publiques et d'un contrôle de la manière dont les entreprises vont mettre en place cette égalité professionnelle. Muriel Pénicaud, aujourd'hui, a annoncé un plan. Le premier levier, c'est effectivement de mettre à disposition des entreprises un logiciel qui permettra d'identifier ces écarts de salaire. Le deuxième point, c'est de permettre aux entreprises de leur laisser 3 ans pour résorber ces égalités de salaire. Et puis, troisième point, de sanctionner si effectivement on n'arrivait pas à ces égalités et de multiplier les contrôles des inspecteurs du travail. Et je crois que c'est important de contrôler les entreprises et de rendre effectif la loi.
Voilà, et ce logiciel effectivement est important parce qu'il va permettre justement aux entreprises qui n'en ont peut-être pas toujours conscience de mesurer les écarts salariaux. C'est peut-être par là aussi qu'il faut commencer, d'ailleurs Virginie Martin, c'est-à-dire pour lutter contre un phénomène, il faut pouvoir le mesurer de façon correcte, ce que ne permettent peut-être pas les lois actuelles.
Oui, c'est toujours très très ennuyeux et c'est pour ça aussi que souvent dans des postes à moindre qualification, paradoxalement, où c'est un peu contre-intuitif, finalement l'écart de salaire est souvent moins important que dans des postes de cadre supérieur et ce genre de choses, puisque là tout d'un coup il y a de la subjectivité et mesurer l'écart de salaire est compliqué, mesurer les mérites, etc., c'est moins quantifiable, c'est très compliqué. Mais cette affaire est une affaire très importante parce que il faut bien comprendre que une femme qui est payée un petit peu moins, même si c'est 1 000, 2 000 euros par an, après il peut y avoir des écarts bien plus importants ou des écarts plus petits, mais néanmoins, quelle que soit la hauteur de l'écart, ça crée une précarité tout au long de la vie. Et ça crée une vulnérabilité pour les femmes tout au long de la vie et à différents stades, évidemment, de leur vie et des cycles de vie. C'est, par exemple, à 40 ans, des sorties de carrière parce qu'elles n'en peuvent plus d'être pas assez rémunérées et méritantes. Quand elles ont aussi des enfants, il peut y avoir des précarités quand elles sont en divorce, en situation de solitude. Il peut y avoir aussi, ce salaire va vous suivre aussi après à la retraite. Vous voyez, c'est tout au long de la vie que la femme va se trouver vulnérable, plus vulnérable que les hommes en général, parce que il y a cette inégalité salariale. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est là où c'est très grave et l'enjeu est très important.
Vous êtes d'accord, Pierre-Yves Gomez, pour dire finalement, ça n'est pas qu'une question de principe, même si le principe de l'égalité est important, mais c'est aussi ce que provoque l'inégalité en termes de carrière et en termes d'impact, par exemple, sur la santé, comme l'évoquait Virginie Martin.
Oui, tout à fait. Mais dans ce cas, il y a deux éléments. On a dit que il y avait une inégalité pas difficile à interpréter, qui est de 9%. Et il y a une inégalité générale qui est de 26%. En clair, comme les femmes travaillent davantage à temps partiel, elles ont un salaire ramené au même temps de travail inférieur à celui des hommes. Donc, ce dont on vient de parler, c'est une inégalité qui n'est pas liée au fait que les hommes et les femmes sont payés de la même façon. C'est lié au fait que l'organisation du travail aujourd'hui est défavorable aux femmes, puisqu'elles sont davantage à temps partiel. Il faut savoir qu'on donne toujours les Pays-Bas comme exemple du plein emploi, mais aux Pays-Bas, 75% des femmes travaillent à mi-temps. Et donc le plein emploi n'a été possible que dans cette condition. Donc, vous voyez, il y a deux éléments qu'il faut distinguer. Un élément de justice, pourquoi un homme et une femme à même emploi, à même salaire, à même compétence et à même niveau de réussite, on suppose, vont gagner 9% de moins pour les femmes. Et second problème, pourquoi les femmes sont davantage précarisées par le travail à mi-temps.
Ça veut dire que... j'aimerais avoir l'avis tiens, justement de Mercedes Serra et de Marie-Pierre Rixain sur cette question. C'est-à-dire finalement, effectivement, une partie de l'écart salarial qui s'explique par des statuts qui sont différents face au travail. Les femmes se retrouvent davantage dans des situations de précarité. Est-ce que ça doit être un des axes de travail pour réussir justement à réduire ces inégalités?
Moi, je pense qu'il faut être simple, parce que sinon, on va s'embrouiller. Il y a une première chose qui est... C'est quand même époustouflant qu'on n'ait pas le même niveau de salaire lorsqu'on fait les mêmes choses. Je sais que c'est difficile à interpréter, mais au moins commençons déjà sur ces bases-là et faisons respecter une loi qui existe. Si on fait des lois et on s'intéresse pas au fait de les appliquer ou pas les appliquer, je pense que c'est déjà porteur de sens. C'est important c'est aussi important pour les jeunes femmes. Je pense qu'elles ne se doutent pas de ça. Elles ne comprennent pas quand elles sortent des écoles, etc. Elles ne savent pas très bien ce qui va leur arriver. Moi-même, je ne savais pas que j'allais avoir un écart de salaire avec mes associés. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre dans la tête des femmes qu'il faut regarder ça de près, il faut surveiller. Et vous avez raison, c'est encore plus difficile quand les filles montent, parce que l'évaluation est plus complexe et on va commencer à les embrouiller, à leur raconter des choses différentes. Donc, il faut quand même, et que le manque de transparence d'ailleurs dans les salaires, va pas aider à comprendre, à faire comprendre aux femmes si oui ou non elles sont payées correctement. Mais c'est important. Ensuite, la notion de temps partiel, c'est aussi parce que, en effet, on a une facilité à mettre des femmes qui en sont dans le besoin en temps partiel. Parce que très souvent, le temps partiel n'est pas du tout une demande. C'est ce qu'on trouve, etc. Et c'est vrai qu'il y a une précarisation. Et c'est pour moi un autre sujet qu'il faut aussi traiter. Il y a une précarisation de l'emploi des femmes. Elles font souvent des emplois que personne ne ferait. Et quand elles viennent faire le ménage le matin et le ménage le soir, et qu'on appelle ça du temps partiel alors qu'elles ont passé leur journée à faire du transport, hein, elles en veulent pas. Donc elles font ça parce que c'est en fait une population qui a des besoins et qui est obligée de se plier à n'importe quoi dans la proposition.
Marie-Pierre Rixin, sur cette idée de travail précaire, est-ce que lutter justement contre la précarisation du travail, ça permet aussi, pas exclusivement bien entendu, mais est-ce que ça permet aussi de lutter contre les inégalités des hommes et des femmes devant le travail?
Oui, évidemment. Mais quand on parle de précarité de l'emploi, je crois qu'il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que le Conseil d'orientation de l'emploi a rappelé que d'ici 15 ans, 50% des emplois actuels seraient supprimés en raison de la numérisation et de l'automatisation des emplois. Donc si on veut notamment résoudre la problématique de la précarité, de l'emploi et de la différence de revenus des femmes, qui également ont une conséquence, et j'approuve notamment ce que disait une des intervenantes tout au long de la vie, puisqu'il y a également 31% d'écart de revenus de retraite entre les femmes et les hommes, c'est qu'il faut effectivement agir notamment sur l'orientation des femmes aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, les femmes se dirigent vers des professions qui sont moins bien rémunérées, Absolument. Qui auront moins d'importance pour l'avenir de notre pays, sur les enjeux stratégiques. J'étais ce matin au Parlement européen sur les enjeux notamment du digital. C'est un problème qui est européen.
Quand vous dites que les femmes s'orientent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les oriente vers ces
postes-là?
Ça veut
dire qu'il y a des stéréotypes. Alors, on est en train de faire un rapport justement sur le point, parce qu'il y a énormément beaucoup de raisons à cela. Il y a des stéréotypes, il y a également des secteurs où il y a aujourd'hui un sexisme, et donc qui n'attire pas les jeunes femmes. Mais aujourd'hui, vous avez davantage de jeunes filles diplômées de bac S, et notamment qui ont une mention très bien en bac S. Or, vous avez 27% des jeunes filles qui sont en secteur scientifique et en prépa scientifique. Mais vous avez 25% de garçons, par exemple, dans les écoles vétérinaires. Donc, on voit bien qu'il y a également des stéréotypes qui jouent, qui sont inconscients ou pas d'ailleurs. Alors il y a un certain nombre de solutions à ça. Il faut montrer des femmes scientifiques qui réussissent. Je vous donne un exemple. Moi, cette semaine, j'ai fait venir 4 scientifiques dans ma circonscription dans un lycée, notamment la première femme professeure à Polytechnique. On a montré des modèles de femmes spécialistes de cryptographie, par exemple. Et une jeune fille a pris la parole et m'a dit Mais madame, vraiment, est-ce grave que nous n'allions pas vers les milieux scientifiques? Évidemment, ce n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est qu'en fait, elle ne se dirige pas vers des secteurs qui sont porteurs d'avenir. C'est ça qui est important.
Virginie Martin.
Aussi. Oui, ce que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut aussi prendre conscience que l'école est un lieu complètement genré. C'est un lieu sexué. Ce n'est pas le lieu neutre que l'on nous dépeint ou que l'on croit dans nos rêves. Non, c'est un lieu profondément genré et profondément sexué. Ça passe par la cour de récréation dans laquelle les garçons prennent un espace public très important, bien plus important que les filles. Donc là, vous voyez bien que tout d'un coup, il se joue aussi la place du politique, de l'espace public, et ça c'est très important, l'espace de la rue. Après aussi, les instituteurs, les professeurs, femmes ou hommes, souvent aussi ont, eux, intégré des biais qui sont genrés. D'autre part aussi, on apprend très peu d'auteurs féminins. Vous voyez, les références sont très compliquées et l'école elle-même crée finalement du sexisme aussi, et c'est un endroit sexué et genré. Les filières d'orientation aussi, c'est pareil. Donc c'est très compliqué de développer ça, et c'est au niveau de l'école aussi. D'une part, il faut prendre conscience que l'école est un lieu genré, d'autre part, il faut lutter contre cela.
Pierre-Yves Gomez, vous qui enseignez justement dans une école de management, celle de Lyon, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi constater dans le cadre de votre activité d'enseignement ?
J'enseigne depuis... Ouais.
Alors, on est en train de vous... Oui, ça y est, on vous a retrouvé.
Est-ce que je suis là ?
Oui. Bah vous êtes là, oui, on vous entend en tout cas.
J'enseigne depuis presque 25 ans dans cette école, et à HEC, il y a une majorité de filles depuis 25 ans. En tout cas, dans les filières commerce, les filières dans grandes écoles de commerce, il y a une majorité de filles. Ça doit être 52 filles, 48% pour les garçons.
Et les garçons donc, aussi, non.
Alors, effectivement, alors ça c'est très, les matières ensuite sont très genrées. Alors, il y a la finance, c'est plutôt les garçons, et les ressources humaines, plutôt les filles. Ou le marketing, plutôt les filles. Ça, c'est vrai que dans les filières, on a une distinction, mais qui n'est pas organisée, vous imaginez bien, par l'école. Donc, moi, je serais très curieux de savoir, par quel phénomène, internalisé chez ces jeunes qui sont par ailleurs très ouverts à plein de choses, par quel phénomène ils vont choisir plutôt une filière plutôt qu'une autre.
Virginie Martin ?
Oui, comme je disais, quand je dis l'école est un lieu genré et sexué, évidemment, c'est aussi des petites écoles auxquelles je penserai, d'accord ? Moi, je suis aussi en business school à Cage, à Marseille, et à Paris. Évidemment, nos étudiants ont 20 ans, 25 ans, ils sont grands. Néanmoins, dans les filières, c'est très problématique. Les filles sont orientées un peu naturellement, et elles aussi ont intériorisé des stéréotypes de genre, donc elles s'orientent plus facilement vers les métiers du marketing, de chef de produit, du luxe, de la mode, ce genre de choses. Et c'est pas là où il y a le plus d'argent. Et les garçons, avec ces matières financières et qui là peuvent rapporter, mais elles sont très mathématisées ces matières, ne l'oublions pas, et donc dès la petite enfance, on a expliqué aux filles qu'elles étaient plus créatives, intuitives, sensibles, et donc peu à peu elles vont vers le marketing qui semble entre guillemets mieux leur aller, et les garçons, on leur a appris à poser des équations mathématiques, et à terme ils vont faire trader dans la finance caricature, mais c'est comme cela que ça se passe. Et à Cage, comme ailleurs, et comme à l'EM, comme à HEC, et comme partout, ça se passe exactement comme cela. Et derrière, effectivement, il y a la sanction financière. Quand on fait de la communication versus de la finance, on n'a pas les mêmes salaires.
Bah, Mercedes Serra, vous travaillez dans le secteur de la publicité, oui, qui n'est pas très éloigné de celui du marketing,
non,
on va dire.
Hein. Je connais très bien HEC, j'étais présidente des alumni HEC, donc j'ai une idée des chiffres, hein, très précisément. Alors, ce qui est très clair sur les femmes, c'est que d'abord, c'est un déficit de femmes dans les écoles scientifiques. Et ça, on arrive à analyser. Il n'y a pas de modèle féminin. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans un endroit où il n'y a pas de modèle féminin ? Et dès la petite école, dès la petite enfance, parce que les parents qui adorent leur fille, mais qui répètent les choses qu'ils ont entendues, parce que c'est humain et c'est normal, on le fait tous, ben globalement, on ne va pas, on n'explique pas aux petites filles leur force dans les sciences. Je vous répète juste que au bac, elles avaient des meilleures notes en maths que les garçons, et qu'elles-mêmes croient qu'elles sont moins bonnes que les garçons. Et je voudrais juste vous raconter une toute petite anecdote, professeur, proviseur de Louis le Grand, m'expliquant, je lui disais, mais comment ça se fait qu'elle ne vienne pas en maths sup, maths spé ? Et là, on m'explique que quand jamais de sa vie, il n'a reçu des parents de filles qui insistaient pour que la gamine rentre à Louis le Grand. Par contre, il a une liste de parents garçons. Donc, soit les filles, elles ont 19,5 et elles rentrent à Louis le Grand, soit à 15, on va négocier pour le garçon, on ne négocie pas pour la fille. Et ce n'est pas négatif, c'est parce qu'on a ça dans la tête. Les écoles de business qui étaient intéressantes parce que les filles commençaient à intégrer sur les business, on est très inquiets. On avait à peu près l'égalité atteint, pas tout à fait, mais on n'était pas loin de l'égalité, par exemple, à HEC. Je vous rassure, depuis 2 ou 3 années, ça n'arrête pas de baisser. Et pourquoi ça baisse? Parce qu'on enlève de l'ambition aux filles. Parce que les prépas HEC intéressaient les filles, parce que c'était une espèce d'équilibre intéressant entre les mathématiques et les lettres. Mais l'ambition, cette ambition un peu dure, on décrit pas la vie des femmes comme cela. Je vous rappelle qu'on dit aux petites filles sans arrêt qu'il faut qu'elles réussissent leur vie personnelle, ce qu'on ne dit pas aux petits garçons.
Alors, tout ce que vous évoquez là, ça pose évidemment un vrai problème, c'est-à-dire ces inégalités, elles ont besoin d'être résorbées sur le plan des principes, parce qu'on est dans le domaine de la morale, dans le domaine de l'éthique, mais en quoi c'est quelque chose qui peut aussi être important, puisqu'on s'intéresse à la vie des entreprises, pour les entreprises. Je voudrais vous faire réagir à une phrase qu'a eue Emmanuel Macron aujourd'hui. Il visitait les locaux d'une société foncière parisienne, Gessina. Je la connaissais pas. Ça lui fait d'ailleurs un petit peu de publicité. C'est bien aussi d'ailleurs peut-être d'afficher une forme de d'exemplarité sur l'égalité homme-femme, parce que ça peut devenir aussi un label, comme par exemple le développement durable ou d'autres choses. Il a dit ceci, Emmanuel Macron: les entreprises où il y a de l'égalité homme-femme sont des entreprises qui innovent davantage, qui réussissent davantage. Expliquez-moi ce que veut dire cette phrase et dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Marie-Pierre Rixin, députée de La République En Marche.
Hier, nous avons fait un colloque à l'Assemblée nationale sur l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, sur la libération de la parole, notamment dans le domaine économique. Nous avions deux spécialistes, et notamment la présidente du réseau financier que vous connaissez probablement, et qui nous a expliqué très précisément qu'effectivement, il y avait davantage de croissance dans les entreprises qui intégrait une mixité. Pourquoi ? Parce que dans une assemblée, quelle qu'elle soit, une entreprise, un lieu politique, une agence de communication, à partir du moment où vous avez davantage de mixité, par exemple, vous avez plus de 30% d'un des deux sexes, eh bien, vous avez davantage d'harmonie, vous avez davantage de consensus dans l'entreprise, de discussion entre les individus, moins de sexisme. Et par exemple, en l'occurrence, lorsque vous avez une entreprise dans laquelle il y a du sexisme, ça veut dire que vous perdez de la croissance, parce que la personne qui va venir travailler dans votre entreprise, si elle est victime de harcèlement sexuel ou de sexisme, elle ne va pas être pleinement consacrée à son travail et concentrée sur la mission qu'on lui demande, mais elle va être perturbée par notamment les enjeux de sexisme.
Mais je suis un peu surpris par ce que vous dites, c'est-à-dire davantage d'harmonie. Est-ce que c'est pas une façon un peu d'essentialiser ce que seraient les hommes et ce que seraient les femmes qui auraient des qualités intrinsèques
qui feraient que
quand ils seraient plus à parité,
il s'agit pas de parler de complémentarité des uns ou des autres, pas du tout.
Il peut y avoir de l'harmonie dans une entreprise où il y a très majoritairement des femmes et également où il y a très majoritairement des hommes.
Non, a priori. Écoutez, ça, c'est des études qui le montrent. À partir du moment où vous avez moins de 30% de femmes dans une assemblée, quelle qu'elle soit, y compris par exemple une assemblée nationale, eh bien, vous avez davantage de phénomènes de sexisme. C'est des études qui le montrent. Et les milieux où il y a davantage de sexisme, eh bien, ce sont des assemblées qui réussissent moins bien.
Alors, tout le monde veut réagir. Je commence par Mercedes Serra.
Moi, j'ai une agence de communication qui est devenue la première agence européenne en 20 ans. On s'appelle ça une success story. J'explique la success également, pas que, par le respect de l'égalité. Et je ne l'explique pas tout à fait comme vous l'expliquez. Moi, je pense que les femmes et les hommes, aujourd'hui, ne sont pas pareils. Ce n'est pas une histoire de complémentarité, je déteste ce mot, mais c'est une histoire de « on n'a pas été élevé pareil ». Parce que si on avait été élevé pareil, on aurait aussi confiance que les garçons, on négocierait nos salaires, etc. Il y a des avantages aujourd'hui dans le féminin, dans la façon dont on a été élevé, qui sont importants pour une entreprise. Je peux vous dire, les femmes, ça travaille beaucoup. Les femmes, ça fait moins de politique. Les femmes, ça a un peu moins d'audace parce qu'elles osent moins. Les types, un petit peu moins. Ça a beaucoup d'audace. Et je pense que oui, il y a un rééquilibrage. Moi, je crois à la mixité parce que je pense qu'au bout du bout, il va y avoir un rééquilibrage. Et moi, je passe tout le temps ma vie à avoir des garçons qui prônent qu'ils sont très bons, que leur salaire, c'est formidable, etc. J'ai des filles plus humbles là-dessus. En général, je trouve qu'il faut rééquilibrer tout ça. Je pousse les filles, je calme les garçons. Et au résultat,
donc,
on a des choses...
Alors, si, non
si, bien sûr, les hommes... Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est en train de dire les hommes sont formidables, les femmes... On est en train de dire qu'il y a une structure de domination dans le temps, des femmes qui se sont habituées à faire certaines choses. Maintenant, les femmes ont des qualités extraordinaires. Je voudrais juste répéter, parce que c'est un chiffre clé, 70% du travail humain est fait par les femmes. Moi, je le ressens dans le travail fait par les femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les entreprises, et il y a eu des études dans tous les sens qui ont montré que la mixité apportait de la grande qualité à une entreprise.
Alors, j'aimerais savoir ce qu'en pense d'abord Pierre-Yves Gomez et ensuite, pardon, promis, Virginie Marta. Juste pour qu'on fasse bien circuler la parole, et promis, Marie-Pierre Rixin, je reviens vers vous. Pierre-Yves Gomez, sur ce que vous venez d'entendre.
Oui, j'entends beaucoup de choses. En fait, on est tous d'accord pour dire que s'il y a davantage de parité, il y a un avantage pour tous. Bon, mais on risque d'enfoncer rapidement les portes ouvertes. Là. La question, c'est pourquoi, puisque c'est si positif, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, je veux bien qu'on reporte tous le système d'éducation. Moi, je trouve plutôt très bien que les femmes soient moins hargneuses, moins acharnées sur leur fiche de paye, plus qu'elles apportent énormément ça, et pour faire pas mal de formations qu'avec des femmes, notamment des administratrices, il y a une très grande différence entre les hommes et les femmes, parce que les femmes ont un certain recul par rapport à tout ça, par rapport à cette hargne dont on parle à l'instant, de l'homme qui veut absolument réussir, et si les femmes doivent nous apporter quelque chose, c'est plutôt ça, c'est plutôt une société un peu plus pacifique que ce que je crois entendre parfois, leur demander qu'elles deviennent aussi stupides, enfin en tout cas aussi hargneuses et aussi violentes que les hommes, pour être à égalité avec eux. Donc je prétends à dire, oui, égalité, mais que les femmes apportent précisément ce qui manque aux hommes, cette humilité, ce recul.
Virginie Martin.
Oui, je suis un peu surprise. Moi, j'ai travaillé dès les années 90 sur ces questions, et plus précisément à partir des années 2000, sur les femmes en conseil d'administration. J'en ai rencontré des dizaines et des dizaines, je peux pas dire des milliers ou des centaines, il n'y en a pas assez. Mais en tout cas, toutes celles qui étaient, je les ai à peu près rencontrées au moins une fois sur des entretiens. Mais je peux vous assurer que ces femmes administratrices, donc de très haut vol, elles peuvent être ambitieuses, elles peuvent être guerrières, elles peuvent être plus ou moins sympathiques, elles peuvent être plus ou moins empathiques. Il y a tous les tempéraments, on rencontre tous les tempéraments. C'est pas les femmes sont comme cela. Là, c'est une essentialisation, voire une biologisation. Bien sûr, il y a des socialisations un peu différentes, mais n'empêche que des femmes qui veulent être au sommet du pouvoir dans une entreprise de très grand niveau, elle est aussi hargneuse, ambitieuse, et elle aime le pouvoir. Donc, il ne faut pas se tromper. Tous les hommes ne sont pas des idiots complètement aveugles et aveuglés par leur fiche de paye, et toutes les femmes ne sont pas des gentilles petites poupées, diplomates et toutes douces, et qui vont créer de l'harmonie dans une entreprise. Donc ça, je trouve que c'est une caricature. Moi, j'ai beaucoup travaillé auprès de ces femmes-là, et c'est important quand même de le redire. Ce que disait Mercedes Serra aussi, je trouve que c'est très important, on n'en parle pas assez, du travail global international sur les femmes qui sont non rémunérées. Le travail aujourd'hui non rémunéré, les travaux domestiques, les travaux sur les enfants, etc. Beaucoup d'éducation aujourd'hui du monde entier est portée par les femmes, et ça, ce n'est pas rémunéré. Et certains économistes disent d'ailleurs qu'il faudrait peut-être porter ça au PIB de chacun des pays, ce travail invisible de toutes les femmes.
Et c'est d'ailleurs un des arguments qui est porté par certains défenseurs du revenu universel. Hein. Marie-Pierre Rixin.
Moi, je crois qu'il faut être très pragmatique. Ce matin, justement, au Parlement européen, on rappelait que si les femmes investissaient davantage au numérique, on gagnerait 16 milliards de PIB à l'échelle de l'Union européenne. Donc on voit bien aussi qu'il y a des gains pour l'économie, il y a des gains pour la santé, il y aura des gains pour l'ensemble des citoyens. Donc je crois qu'effectivement, il faut sortir de cette essentialisation. J'adhère totalement à ce propos de dire que les femmes auraient telle qualité et que les hommes auraient telle autre. Moi, j'évolue dans un milieu où nous sommes, notamment dans un groupe parlementaire, où nous sommes à la fois quasiment autant de femmes et autant d'hommes. Et il y a autant d'hommes plus discrets que de femmes discrètes, que de femmes ambitieuses, que d'hommes ambitieux. Donc je crois qu'il faut sortir de ces clichés-là et rappeler en effet que aujourd'hui, l'une des problématiques, et Françoise Héritier l'avait rappelé dans son livre Masculin-Féminin, que la problématique aujourd'hui qui se pose aux femmes, c'est de faire davantage, d'investir davantage leur vie professionnelle, de rééquilibrer les temps de vie et notamment à ce que les hommes prennent leur part de la charge parentale et de la charge domestique. Je crois qu'aujourd'hui, foncièrement, la problématique se situe sur ce point.
Alors, puisque la question qu'on pose ce soir, c'est si cette égalité-là, elle doit s'imposer par la loi, est-ce que vous considérez justement que la loi peut y aider ? Vous parlez de la charge parentale, le congé parental, par exemple.
Bien sûr.
Congé parental obligatoire pour les hommes et à égalité, justement, de... Alors, évidemment, ça ne peut pas être tout à fait peut-être la même durée, mais enfin, en tout cas, au moins, imposer le congé parental pour les hommes, ça, c'est une façon aussi d'agir.
Je pense qu'il n'y a pas que la loi, parce que les stéréotypes quittent... Ce n'est pas la loi qui les fait, c'est l'éducation, c'est beaucoup de choses qui peuvent aider les stéréotypes à bouger.
Mais prenez une loi, par exemple, sur les conseils d'administration.
Non, la loi, elle est très simple. Moi, je me suis battue pour cette loi.
Voilà.
Et c'est hyper simple. Avant, il n'y avait personne, ou quasiment très 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 peu de femmes, 8%. Après, on en a 40%. Donc, globalement, je suis assez... Même si je pense que la discussion sur l'essentialisation, elle est extrême, parce que sinon, on ne dirait pas que les femmes ne négocient moins, etc., s'il n'y avait pas un modèle féminin masculin. Donc, ça demande à être approfondi. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, ces sujets-là, sur la loi, ils sont importants. Ce que l'on veut faire passer par la loi est intéressant. Et un des enjeux, une des difficultés qu'on a pour monter quand on est une femme, c'est qu'on travaille beaucoup par rapport à un homme. En France, on travaille 3 heures de plus quand on est une femme par rapport à un homme, parce que la maison, l'entreprise familiale, qui pour moi est plus fatigante honnêtement que l'entreprise, en tout cas dans mon cas, que l'entreprise du travail, elle est laissée aux femmes. Donc une des façons de faire, c'est de faire en sorte qu'on considère que l'enfant n'appartient pas qu'aux femmes, il appartient à la famille, donc il appartient aux hommes et aux femmes. Et cette idée du congé paternité, mais de vraie longueur, pas 15 jours pour voir une vraie longueur, qu'on propose aux hommes de le prendre. Et s'ils ne le prennent pas, il est perdu et il n'est pas rattrapé par la femme, est une idée extrêmement importante. Moi, je crois à la loi sur ça. Je pense que ça nous aiderait beaucoup parce que ça permettrait de reconnecter le père avec ses enfants, ce qui est une belle idée.
Et la loi qui prévoit des sanctions si les écarts à poste équivalent sont encore trop importants dans une entreprise, vous y êtes favorable ?
Moi, je crois que s'il y a des lois, il faut regarder si elles sont appliquées. Si elles ne sont pas appliquées, elles sont sanctionnées. Et franchement, je pense que par la nature, nous n'allons pas arriver très loin. Donc je pense que vraiment, lorsqu'on peut faire des lois, on a intérêt à les faire. Lorsqu'on peut les faire respecter, c'est normal.
Pour faire respecter les lois, il faut parfois en passer par des sanctions, Virginie Martin, en l'occurrence sur cette question de l'égalité homme-femme.
Oui, parce que, comme on le rappelait en début d'émission, la loi sur l'égalité salariale existe depuis 1983. Vous voyez, c'est très loin et pourtant ça n'a pratiquement jamais été appliqué. Donc il faut des sanctions, c'est évident, c'est comme la parité en politique. Sinon, on ne s'en sort pas, on ne fait pas bouger les choses. Le plus important sur la question de la loi, je crois que la loi dit et fait la société. Donc c'est très important. À un moment donné, il y a eu des lois extrêmement racistes qu'on appelait les lois apartheid. Pour contrer ça, il faut faire des lois anti-apartheid. On n'a pas le choix, vous voyez. Donc, à un moment donné, les femmes... Parce que la loi, elle ne pouvait pas voter, elle ne pouvait pas travailler sans l'aval du mari, elle ne pouvait pas posséder un chéquier, c'est la loi qui imposait ça. Donc il faut aussi imposer d'autres lois pour imposer d'autres façons de faire, ça me paraît complètement essentiel. Et les mœurs là-dessus ont la peau dure, véritablement, et donc la loi doit impérativement ouvrir le chemin.
Comment est-ce que vous intégrez les uns et les autres cette réflexion dans une réflexion peut-être encore plus large qui est celle de la résorption des inégalités, notamment dans le monde de l'entreprise? Il y a de fortes inégalités salariales, on sait que c'est quelque chose qui est quand même un vrai problème. Est-ce que c'est un combat qui doit se mener de manière parallèle? Est-ce qu'il faut prioriser peut-être ces combats-là, Marie-Pierre Rixin?
Moi, je crois que c'est un sujet qui est global, qui est systémique. On sait aujourd'hui que si l'on ne fait rien... Si on ne fait pas de loi, si on ne fait pas appliquer les lois, l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'échelle planétaire, on la verra aboutir en 2234. Donc je crois qu'on voudrait qu'elle arrive quand même, notamment plus tôt et notamment en France. Et la loi pour ça, évidemment, est nécessaire.
Et sur la question des écarts de salaire au sein d'une même entreprise, qui peuvent être des écarts entre hommes ou entre femmes, d'ailleurs, hein.
Oui, mais les... il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des grilles, notamment par exemple pour à école équivalente, qui permettent aujourd'hui de dire, quel que soit le genre de l'individu, de dire bah, tel individu est rémunéré tant.
Je vous parlais pas à école ou à diplôme équivalent. Hein. Moi, c'était vraiment les écarts de salaire. C'est-à-dire, on sait que bah, il y a eu pendant la dernière présidentielle, notamment, il y avait des débats sur le fait de dire est-ce qu'il faudrait limiter, je sais pas, les écarts de 1 à 10 ou de 1 à 20. Est-ce que ça fait partie aussi de cette réflexion sur la résorption des inégalités?
Alors moi, je suis à titre personnel pas du tout favorable. Je pense que dans une entreprise, il y a également des rôles sociaux, que chacun apporte également une valeur ajoutée à l'entreprise et qu'on est rémunéré à la hauteur de la valeur ajoutée que l'on apporte à l'entreprise. Donc ça, c'est une réalité. Et moi, je suis plutôt favorable au fait qu'il faut encourager les femmes à investir, et chacun d'ailleurs, pas seulement que les femmes, à investir davantage, à améliorer la formation tout au long de la vie, de manière à pouvoir permettre à tout le monde, y compris à des personnes qui auraient eu une formation initiale peut-être en deçà de leurs ambitions de départ, de manière à accéder à des postes, qui leur permettent d'avoir une meilleure rémunération.
Pierre-Yves Gomez.
Oui, je crois que le principal sujet, c'est l'inégalité de classe, c'est l'égalité entre les salaires les plus faibles et les plus élevés, et que l'inégalité dans l'inégalité, c'est l'inégalité entre hommes et femmes. Mais pour moi, le premier sujet, et celui qu'il ne faut pas masquer, c'est le fait que lorsque les ressources sont accumulées par certains au détriment des autres, l'inégalité ne sera pas en 2030, en 2300 qu'on l'aura, mais en 2800, et qu'on arrivera à avoir une certaine égalité sociale.
Et est-ce que la lutte, Pierre-Yves Gomez, est-ce que la lutte pour une moins d'égalité entre les hommes et les femmes peut permettre, justement, en parallèle, d'atteindre cette égalité, ou en tout cas ces moindres inégalités de salaire dans les entreprises?
Mais concrètement, ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, c'est que le temps partiel va se développer, c'est que les hommes gagnent 10% de plus que les femmes, et dans la conjoncture actuelle, ça veut dire que les salaires des hommes vont stagner et les salaires des femmes vont augmenter. Il faut être concret, je veux dire, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, plus que jamais, et parce qu'il faut effectivement réduire l'inégalité homme-femme, on est bien d'accord, plus que jamais, il faut se poser aussi et en parler à la question de l'inégalité entre les salaires les plus faibles et les plus élevés.
Merci, Dessera.
Moi, je préfère, je pense que c'est deux sujets extrêmement importants, mais je pense qu'il ne faut pas créer de confusion. C'est-à-dire, je crois que la problématique, et Françoise L'Héritier l'a tellement brillamment énoncé, la problématique des femmes, c'est une problématique structurelle du monde, et que les femmes ont été dominées depuis très longtemps par les hommes. Ce qui vaut, quand on dit 70%, tout à l'heure, je remarquais qu'on parlait du travail à la maison, pas du tout, hein. C'est le travail à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ramassent le blé, le riz, tout ça, ce sont des femmes, les femmes. Donc, je pense qu'on est dans une telle situation qu'il faut, être très clair sur ce problème qui n'a pas exactement les mêmes racines que l'autre problème, que je trouve aussi très important.
Qui est plus conjoncturel, l'autre problème?
Non, en tout cas, vous voyez qu'on n'a pas la même vision sur ce problème, puisqu'il y a aussi une vision et un regard sur qu'est-ce qu'on appelle inégalité et pas inégalité. Moi, par exemple, une des choses les plus importantes pour moi, c'est l'égalité de l'éducation, qui est complètement clé et qui doit permettre. Après, la notion de mérite, elle intervient. La notion de type de travail, elle intervient. Et j'accepte les différences. Mais c'est une discussion à part entière. Je ne veux pas la régler. En revanche, je pense que la problématique des femmes est une discussion aujourd'hui du monde. Je suis très inquiète, en fait, sur l'évolution des femmes. Je ne suis pas aussi optimiste que vous, parce que considère que dans le monde, on est en train de régresser comme des fous sur le problème des droits humains. Hein, le problème des droits humains de ce siècle, c'est aussi beaucoup, beaucoup le problème des droits des femmes. Et des choses où on pensait qu'on allait de l'avant, on va en arrière. Quand je prends la position de la France, dont on pense en une seconde que tout va très bien, on s'aperçoit qu'on ne bouge pas sur beaucoup, beaucoup de problèmes. Toujours pas de femmes au CAC 40. Quand on en a une, on met quelqu'un au-dessus. Un garçon, si possible, pour la surveiller. Je pense qu'il faut être assez nerveux sur la problématique des femmes, parce que si on ne fait pas ce qu'il faut, ça ne bouge pas.
Eh bien, ce sera la conclusion pour ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Mercedes Serra, Virginie Martin, Marie-Pierre Aixin et Pierre-Yves Gomez. Discussion que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Isolde Sicard, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean Frédérics. Dans un instant, vous retrouverez La Dispute. Arnaud Laporte, on va parler de littérature ce soir.
Ben voilà, vous avez tout dit. On commencera par Une femme, pas n'importe laquelle, Herta Müller. C'est l'un des livres dont nous allons parler ce soir. Demain dans Du Grain à Moudre, Hervé Gardette.
Le club des idées depuis le Bel Air, où on est le clivage droite-gauche.